les ondes buissonnières.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans les ondes buissonnières. Aujourd'hui, en cette fin de mois d'août ardent, on vous propose d'écouter un nouvel épisode du podcast de Blast qui s'appelle Manuel Déter. Un podcast qui enquête sur les parcours et les réalités matérielles des femmes qui s'engagent en agriculture aujourd'hui en France. Un podcast signé Léa Arson et Émilie Serpotion. L'épisode du jour s'intitule « Quand l'eau vient à manquer ». Et il se propose d'écouter Camille et Lucie, deux vigneronnes installées dans le Fenouillède entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales, et qui questionnent chacune à leur manière la façon de travailler la vigne à l'heure du changement climatique. Plein de solutions, pas que de la dépression. Ne vous inquiétez pas, restez à l'écoute.
Les podcasts de Blast.
Manuel Déter. Des outils, des récits et de la matière
pour glisser des petits cailloux dans les bottes
et jeter des gros pavés dans la mare agricole.
Une série podcast proposée par Léa Arson et Émilie Serpotion.
Épisode 9. Quand l'eau vient à manquer.
Je pense que le cerveau, il bug en fait. Parce que c'est tellement impensable. En fait, t'as ta vigne au milieu, il y a la rivière. Et là, ben, en fait, t'es en mode, bon, ben. Voilà. L'impuissance. Donc ça, ça a tout emporté. Par contre, les souches sont restées accrochées. Donc c'est là qu'on voit à quel point la souche, elle a un système racinaire quand même qui est puissant parce que la force de l'eau, c'était impressionnant. Tu regardes ça et tu te dis, ben, ok. Bonne leçon. Si j'étais tentée d'imaginer que, voilà, que je serais plus forte que la nature, ben non, en fait.
On est ici dans un territoire qui est aride visuellement. Il est très minéral et on est quand même environné de garrigues assez basses, assez noueuses, assez denses. Les chênes d'ici, c'est des chênes qui sont d'une densité improbable. C'est déjà très aride, sans parler de sécheresse. Mais alors quand on rajoute la sécheresse et cette attente un peu suspendu à la météo qui dure. Il faut imaginer qu'ici, non seulement il pleut pas, mais la tramontane souffle quand même un certain nombre de jours par an et avec une certaine force. Le ciel est nettoyé, balayé, parce que il souffle de la tramontane qui est elle-même encore asséchante. Cette attente suspendue de la sécheresse, elle a un effet sur le corps. Il y a une tension qui s'installe. Et même au bout d'un moment, une forme de peur qui s'exprime un peu physiquement, avec une forme de fébrilité où on finit par rigoler d'en être là.
En cet été 2026, la plupart d'entre nous auront expérimenté le poids de la chaleur, l'écrasement des canicules qui se succèdent et qu'on ne peut que subir, les coups de chaud, parfois mortels, et ces incendies sur des milliers d'hectares. plantes et animaux souffrent tandis que nous sommes épuisés, physiquement et psychiquement. Nous avons grand besoin de perspectives plus réjouissantes. L'agriculture, telle que pratiquée aujourd'hui, n'est pas prête. Et pourtant l'après, c'est maintenant. Paysannes et paysans, de par leur métier, sont aux premières loges des changements climatiques. Et d'autant plus là où nous nous trouvons pour cet épisode, entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Là où se succèdent depuis plusieurs années des épisodes climatiques extrêmes, de grandes crues en sécheresse pluriannuelle. Lucille et Camille sont toutes deux vigneronnes. Elles nous accueillent dans leur petite région du Fenouillède, vallée de l'Agly, où elles se battent pour qu'y vive une agriculture paysanne.
À l'aube de la quarantaine, installée sur les terres familiales depuis 5 ans, je fais face à un constat étourdissant, celui d'un monde agricole à bout de souffle. Ce monde, c'est le mien, celui de la terre et de la ruralité. De mon coin reculé, au bord de la Gly, au sud des Corbières. Ce monde que j'ai choisi, ou plutôt qui m'a choisi, pour le meilleur et pour le pire. Mes souvenirs d'enfance de grêle, de sécheresse, de gel ou d'inondation m'ont très tôt appris l'humilité face à la nature. Après 3 années de sécheresse intense, la crise climatique est incontestable. Celle du marché du vin est venue entamer l'espoir de rebondir sans se diversifier. Le vignoble souffre et les perspectives se font rares. Ce qui se passe ici depuis 3 ans nous dit l'urgence de questionner, d'évoluer, de réinventer quelque chose. En fait, la vigne, elle produit beaucoup de grappes. Parce qu'une plante qui souffre, elle va essayer de faire son maximum pour se reproduire, pour perdurer, pour perpétuer l'espèce.
Quand nous arrivons, en ce mois de mai 2026, la région sort d'une longue période de sécheresse. Il faut s'imaginer, 3 ans sans pluie. Une transformation insidieuse qui s'installe progressivement et bouleverse les équilibres de la région, dont l'agriculture. La vigne est une culture pérenne. Contrairement aux légumes, aux céréales, on ne peut pas en changer ou expérimenter de nouvelles variétés chaque année. Certains pieds ici ont été plantés il y a plus de 80 ans. La vigne a modelé les paysages, les modes de vie et structuré l'économie locale pendant des décennies. Mais aujourd'hui, force est de constater que la filière est en pleine crise. Alors, comment rester ici et cultiver l'espoir ? Nous arrivons après un printemps presque pluvieux. Le sol et les vignes ont repris des couleurs. L'aridité semble s'être éloignée, du moins pour quelques semaines.
Donc là, on est entre stade petit pois et fermeture de la grappe. Sur les muscats, on le verra, on est vraiment à fermeture de la grappe. Les graines se touchent, en fait. Donc là, ouais, c'est un peu la jungle, du coup. On n'avait plus l'habitude de ça.
Du coup, ça a très joué, quoi.
Ah ben oui, là, quand tu vois ça... Enfin, je sais pas, c'est... Il y a un côté luxuriant. C'est la vie, quoi. Alors, en plus, je pense que d'avoir été privée d'eau pendant longtemps, là, ça explose, quoi. Vraiment, elle... Elle s'exprime... Donc on croise les doigts parce qu'il y a une belle sortie, il y a une belle végétation. L'idéal, on n'est jamais content les agris, hein. Toujours trop ou pas assez. L'idéal, ce serait qu'on ait 2 petites pluies dans l'été là, pour accompagner. Beau temps pour les vendanges et là, on sera refait. Au moins moralement, on sera refait. Économiquement, peut-être pas, mais...
Mais moi, je me demande, c'est ça le truc, c'est comment vous gérez la santé mentale, tu vois, et le stress, quoi. Parce que sur des pérennes, en gros, t'as quand même...
Tu subis beaucoup.
Énormément. Ouais. Les aléas, t'es obligé de les prendre. En culture courte, on peut changer, se dire, ouais. Je machine.
Bah là, moi, y a plein de collègues qui ont arrêté. Hein. Après, moi, ça fait pas longtemps, donc j'ai encore l'énergie de... Enfin, l'enthousiasme du début, tu vois. Mais des copains qui font ça depuis 25 ans, 30 ans, ben, ils ont lâché, quoi. Et moi, j'ai fait un peu ce pari-là aussi, de me dire, sur la partie vigne, à moyen terme, ce que je vais retirer de la vigne, c'est peut-être deux tiers, trois quarts du raisin et puis un quart, un tiers de mon rôle sur le territoire de coupe-feu, hein, parce que l'incendie des corbières, les vidéos, elles sont, les photos, elles sont flagrantes. Hein. La vigne, elle a un rôle coupe-feu qui est incontestable. Donc risque incendie, et puis voilà, quand on voit les friches aujourd'hui, en termes d'attractivité du territoire, c'est quand même bof, quoi. Donc de maintenir aussi une activité économique, de... moi je me suis lancée dans des pratiques aussi vertueuses, voilà, pour essayer d'être un peu en harmonie avec notre territoire, quoi. On est retombé sur des photos l'autre jour en face de la maison, là. Les vignes que je vais arracher, que j'ai du mal à arracher parce que je les ai sous le nez. Je suis retombée sur des photos des années 90. Oh, le choc. Quand tu vois la photo, tu vois le paysage aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir, quoi. Il y avait des vignes partout, pas les pentes vraiment très raides, mais en plus, c'est des photos à l'automne, donc à l'automne, c'est super beau. Il y a du rouge, du jaune, du orange. Et ouais, c'était... Enfin, aujourd'hui, sur cet espace-là, il y a 5 ou 6 fois moins de vignes qu'avant.
Et qu'est-ce qui fait que tu arraches, que tu prends la décision d'arracher une parcelle ?
Moi, je voulais réduire les surfaces parce que j'arrivais pas à... Déjà, en termes de temps d'organisation du travail, j'arrivais pas à tout travailler. Et puis, bah, aller solliciter de la main-d'œuvre, c'est pas rentable, hein, puisqu'on a déjà du mal à se rémunérer, nous, donc... Pour rémunérer quelqu'un, c'est quand même un peu compliqué. Et du coup, sur le choix des parcelles en elles-mêmes, c'est la santé de la vigne, quoi. J'ai arraché les vignes les moins productives parce que, en termes de rentabilité à la surface, je ne m'y retrouvais pas, quoi.
Depuis 2024, le gouvernement propose de nouveau des primes à l'arrachage pour réduire les surfaces en vigne et espérer ainsi que la baisse des volumes fasse remonter les prix. Le vin n'est plus autant consommé qu'avant et nous voilà dans une énième crise de surproduction. On arrache donc les pieds les moins productifs, créant des montagnes pelées dans le paysage. Un réenfrichement en patchwork, entre des parcelles encore bien vivaces et d'autres en passe d'être abandonnées. La reconquête de ces espaces par des broussailles puis des végétaux de garrigue, secs et bas, constituent une forme de réensauvagement qui peut paraître séduisante en cette période d'artificialisation folle des milieux naturels. Mais dans les faits, cette dynamique crée surtout un contexte propice à la propagation d'incendies géants engloutissant faunes et flores, qu'elles soient sauvages ou cultivées. Alors, pour conserver des vignes malgré l'aridité, une question inédite se pose aux viticulteurices, celle d'irriguer, soit d'amener artificiellement de l'eau sur une ou des parcelles. Et avec elle, l'épineux sujet du partage de la ressource en eau.
Et ici, j'ai l'eau. Et du coup, le fait d'avoir l'eau, ça me permet aussi de me projeter ici. Et donc là, j'ai une pompe qui est historique, hein, qui a... plus de 40 ans, et pareil, c'est plus vieux que moi, je crois. Et il y a un puits qui est creusé, on peut aller voir si vous voulez, qui est creusé à côté de la rivière, qui est connecté à la rivière, donc qui se remplit par le bas. Et moi, je viens pomper dans ce puits. Et donc là, cette parcelle-là de vigne, elle est à l'irrigation. Mais on irrigue très peu, en fait, hein, par rapport à des vergers. Ou c'est juste pour... C'est pas pour faire exploser la production, c'est vraiment pour maintenir un équilibre au niveau... Parce que vous voyez, la rivière, elle est juste là.
Ouais.
Vous la voyez, vous l'entendez? En fait, nous, on est en amont. Alors, on n'est pas les plus en amont, on est ce qu'on appelle la moyenne vallée de la Glie, donc entre la haute et la basse. Y a beaucoup plus d'exploitation sur la plaine, sur la basse vallée. Les enjeux sur l'eau, pour moi, je me suis fait cette remarque il y a quelque temps, on est un peu à l'inverse de l'économie. C'est-à-dire que sur la vallée, la dynamique économique, l'argent, il est en bas et il a du mal à remonter, quoi. Économiquement, on n'a quand même pas la même dynamique. Ben, l'eau, c'est l'inverse. L'eau, elle passe chez nous avant d'aller chez eux. Après, quand on est...
connecté au territoire, ben oui, effectivement, on sait très bien que l'eau, c'est un enjeu qui est commun et que c'est pas en profitant de sa situation en amont qu'on va trouver des solutions. Après, c'est sûr, forcément, vu qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs sur la plaine, ils ont un poids qui est beaucoup plus important. Donc là, on est très vigilants ces derniers temps sur les projets qui se développent en aval, qu'on ne soit pas les dindons de la farce et qu'on nous dise bah, « L'eau, vous voyez, vous la regardez passer, mais vous n'avez pas le droit de la prélever parce que il faut la garder pour les collègues en bas. »
À quelques kilomètres de chez Camille, une autre vigneronne se sent elle aussi concernée par l'enjeu de la ressource en eau. Lucille, originaire de Bourgogne, un autre grand terroir producteur de vin. Elle débarque dans le Fenouillet il y a 12 ans et tombe amoureuse de ses paysages de garrigues et de montagnes. Ici, contrairement au vignoble bourguignon, où l'hectare de vigne est devenu hors de prix, les terres ne valent déjà plus grand-chose. Les viticulteurs partent à la retraite, les domaines se vendent et personne pour les reprendre. Alors, avec son conjoint, Yael s'installe comme vigneron indépendant. La faible pression foncière leur permet d'acquérir plusieurs parcelles sur lesquelles Yael peuvent tenter différentes expérimentations agronomiques. Malgré les métamorphoses du climat, Lucille continue d'être farouchement opposée à l'irrigation de la vigne.
Ben moi, je suis pour le principe de précaution, en fait. C'est tout, quoi. Je militerai pour qu'on n'irrigue pas la vigne, quoi. Comme on est dans un endroit en très très forte tension, avec un besoin en eau, je veux dire, il y a des bleds juste à côté de chez nous où ils n'ont plus d'eau potable quand même. On irriguerait la vigne pour pouvoir manger des raisins parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pousser ici qui nous apporte, je sais pas, telle et telle vitamine ou j'en sais rien, tu vois, ce serait autre chose. Je suis désolée, j'ai l'air d'être très 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 extrême quand je dis ça, mais... Et si on irrigue de la vigne pour faire du vin, alors il n'y a plus aucune limite à l'irrigation agricole. Pour
mais
moi, c'est absurde.
Mais
toi,
ton argument, c'est que ça ne vaut pas le coup. Enfin, ce n'est pas légitime pour du vin parce que le vin, c'est pas une production de première nécessité.
Ah ouais. Alors, il y a plusieurs choses. On fait du vin dans des milieux semi-arides. En général, les vignes, elles sont plantées là où rien d'autre ne pousse. Donc ça fait partie de l'histoire de la culture de la vigne, de la planter là où on ne peut pas irriguer, en fait. Donc, on sait faire du vin sans eau. Enfin, sans eau. On s'entend. Évidemment, il faut qu'il pleuve un minimum. Alors, c'est sûr que ça n'est absolument pas le modèle économique de production de vin et qu'on a suivi ces dernières décennies. Toute la plaine du Roussillon, là, ils ont sorti de terre des buses d'irrigation par forage dans toute cette zone-là, alors que c'est la zone à laquelle est adossée Perpignan et toute l'agglomération perpignanaise. Et on sait que cette nappe-là, elle pourrait être en train de devenir saumâtre, là. Donc on pompe encore de l'eau pour arroser de la vigne, pour faire du vin qui ne se vend pas, et en même temps, on te propose des primes à l'arrachage. Donc... Parce que c'est pharaonique comme travaux de mettre en place ces énormes buses d'irrigation là.
Ici, si la position c'est de ne rien irriguer, il y a un moment plus rien va pousser, non?
C'est une vraie question. Ouais. En fait, c'est pour ça que nous, la seule réponse qu'on a réussi à trouver, c'est de pratiquer l'hydrologie régénérative en sa plus simple expression, c'est-à-dire retenir l'eau au maximum, le peu d'eau qui tombe, qu'elle reste. Qu'elle s'infiltre, qu'elle reste là, qu'elle dévale pas pour aller dans la rivière directement, quoi, tu vois. On arrache un rang sur six dans certaines parcelles pour planter des arbres, on arrache pour faire des baissières, on arrache des ceps pour pouvoir installer des haies et des clôtures, on arrache et mettre des animaux, on dédouble systématiquement, on ébourgeonne tout, on pratique vraiment une agronomie qui va pas être une agronomie du rendement. En continuant de faire ce pour quoi on s'est installé, On est de plus en plus radicaux, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où on va chercher de plus en plus loin le début d'une solution. Et voilà, là on arrive sur notre première baissière.
Ah, c'est profond. Ok. Ben, et ça s'est déjà comblé un peu. Ça va continuer de se combler, tu sais.
Bah oui.
Ouais. Une baissière, c'est un petit fossé qu'on creuse en long, perpendiculairement à la pente d'un champ, d'un pré, pour ralentir l'eau.
Comme une gouttière ?
Ouais, c'est comme une gouttière, mais vivante et infiltrable. Ouais. Et ce paysage-là, qui est un paysage d'hydrologie régénérative, il est pas du tout abouti, même d'agroécologie, il n'est pas du tout abouti. La haie n'a pas fini de pousser, la baissière, elle est vraiment toute jeune, on ne sait pas comment elle va se comporter encore. Enfin, il y a plein de choses, il y a probablement même de la vie qui va s'installer de manière saisonnière, qu'on n'a pas encore constaté. Enfin, donc ce paysage-là, il n'est pas abouti. Mais le contraire de ce paysage-là, c'est une vigne plantée dans le sens de la pente. On en voit en face de nous, là-bas, au fond, dans le paysage, là. Désherbée totalement, comme la vigne vert pétard à gauche, là-bas. Et là, l'eau, elle prendrait encore plus de vitesse parce qu'elle n'aurait plus rien pour la freiner. Et là, ça creuse des grandes ravines avec la terre qui se barre à la rivière ou sur les chemins. Revenez à l'automne, c'est incroyable. Les routes sont tachées de boue, en fait. Et c'est les sols qui se barrent, quoi. Qui sont plus dans les vignes, en fait.
Ce qu'on nomme aujourd'hui hydrologie régénérative consiste à restaurer le cycle naturel de l'eau, afin de favoriser son infiltration et son stockage dans les sols face au risque d'inondation et de sécheresse. Il s'agit de combiner des pratiques ancestrales, telles que replanter des arbres à l'intérieur et autour des parcelles, travailler avec les courbes de niveau des sols, en les combinant avec des connaissances scientifiques actualisées. C'est une piste majeure pour le milieu agricole. Et bien qu'en développement, ces pratiques restent encore minoritaires et nombre d'agriculteurs et viticulteurs souhaitent miser sur l'irrigation. Alors, pour mieux comprendre les enjeux, nous participons à une journée de réflexion prospective organisée par le parc naturel régional Corbière-Fenouillède sur l'eau. Nous y rencontrons Coralie Miguel, chargée de mission au syndicat du bassin versant de l'Agly, et Sylvain Baronne, chercheur autour des tensions sociales et politiques liées à l'eau.
L'agriculture représente 58% en moyenne annuelle de la consommation d'eau en France. Bon, ça, c'est un chiffre déjà qui est très moyennisant, je dirais, hein, qui écrase beaucoup de réalités locales. Il faut savoir que la grande majorité des agriculteurs n'irriguent pas. L'immense majorité des surfaces, de la surface agricole n'est pas irriguée. Et parmi les irrigants, il y a d'énormes différences entre un maraîcher qui arrose ses fruits et légumes pour de la vente en circuit court au niveau local. Et à l'autre bout de la chaîne, on a le grand céréalier qui produit une production qu'il exporte massivement à l'étranger. Donc voilà, on a toute une gradation de pratiques agricoles. Le rapport à l'eau est aussi très différent selon la façon dont on pratique l'agriculture. Au niveau des représentants, on a des syndicats agricoles qui sont majoritaires, qui poussent énormément au développement des solutions de stockage. Ce n'est pas le cas de tous les syndicats, hein. C'est le cas de la FNSEA et de la coordination rurale qui sont sur la même ligne sur ce sujet-là. Et ce qui génère des changements en cours là, au niveau des politiques publiques avec ce projet de loi d'urgence agricole. Et c'est une loi qui est très politique et qui remet en cause une trentaine d'années de politique de l'eau. Donc ça organise une re-hiérarchisation des normes au profit des projets de stockage, en fait.
Donc moi, je parle du bassin versant de l'Agly, parce que c'est ce que je connais. On est quand même sur un territoire qui est déjà très contraint en ressources disponibles. Donc on est en climat méditerranéen. On est sur un bassin versant qu'on dit karstique, donc il y a beaucoup de calcaire. Donc ce n'est pas des endroits où on va avoir des ressources facilement accessibles en quantité facile, on va dire. On n'a pas de réserve de neige, etc. Donc c'est déjà un climat contraint. Ce n'est pas pour rien qu'on a beaucoup de vignes. Et même les cultures arboricoles, on voit que celles qui sont les plus consommatrices d'eau, donc beaucoup d'abricots, se retrouvent en zone de plaine. C'est les secteurs où on a un accès à l'eau qui est plus simple. Et effectivement, on arrive dans cet endroit un peu ciseau où ben, on a des gens qui ont besoin de solutions sans avoir une vision d'exploser des rendements ou quoi, mais de sécuriser même le matériel végétal. On a eu de la perte de matériel végétal qui met des années avant d'être productif. Donc forcément, c'est des pertes de fonds très importantes qui ont des conséquences économiques enfin, sur du long terme. Et pour autant, ben, quand on veut faire du nourricier, ben, souvent, il faut plus d'eau que la vigne. Donc toutes ces équations-là, elles sont très difficiles à répondre et ça pose forcément dans un territoire où la ressource, elle est rare et elle se raréfie, ça pose la question des priorités.
Ouais, non, sur la vigne, il y a eu un projet piloté par des collègues de l'INRAE qui s'appelait La Cave et qui est un vraiment projet sur l'adaptation de la viticulture au changement climatique. Et le stockage, alors c'est l'irrigation, c'était une façon de s'adapter, alors peut-être temporairement au changement climatique, mais il y avait aussi plein d'autres pistes, hein, notamment d'autres façons de conduire la culture, la vigne, de tailler, de jouer sur les calendriers, de jouer sur les cépages aussi, sur la sélection de cépages. Donc il y a eu pas mal de travaux là-dessus. D'un point de vue plus modèle agricole, la question de la monoculture, elle se pose, enfin, dans le contexte actuel. Est-ce que garder des secteurs entiers consacrés à la monoculture de la vigne, ou est-ce qu'il faut réfléchir à des évolutions, à de la diversification, dans le sens d'une agriculture un peu plus vivrière. Et c'est ça le fond de la question, c'est pas tant la question d'irrigation ou du stockage, mais c'est stocker, irriguer pour qui et pour quoi faire à la fin, pour quelle agriculture et pour quelle alimentation in fine, quoi.
Et c'est pour l'instant pas trop les orientations qui sont prises, en tout cas au niveau national, puisque donc on y vient à ces projets-là qui vont plutôt viser à stocker, contourner, enfin, retenir l'eau. Bah, qu'est-ce qu'il en est là sur le territoire? Et enfin, moi, une question qui m'intéresse, c'est bon, les méga-bassines ont énormément cristallisé, et je pense que politiquement, beaucoup de gens, en tout cas à gauche, sont contre. Mais sur des projets, entre guillemets, de plus petite ampleur à l'échelle locale, est-ce qu'on est sur les mêmes logiques ou est-ce que c'est plus compliqué que ça, du coup?
Sur le stockage et ses limites, sur le bassin versant de la Glie, on a un barrage qui a été édifié il y a une trentaine d'années, en partie pour la protection contre les inondations et aussi en se disant que ça ferait du soutien au cours d'eau l'été. Et donc on a eu un développement sur des cultures arboricoles. Et effectivement, donc en 2023, c'est la première année où il ne s'est vraiment pas rempli à un niveau suffisant. Et donc, ça a été vraiment une catastrophe pour le monde agricole. Il n'y avait vraiment pas d'eau et donc pas de recharge des nappes souterraines. Donc vraiment, il y a eu une impossibilité d'irriguer. Et en fait, ça ne s'est pas passé qu'un an. Il y a eu 2 années de suite. Et ça, ça est quand même un marqueur important, vraiment de se poser la question, ça veut dire quoi sécuriser un accès à l'eau avec du stockage? Pour que, justement, on s'évite aussi les effets rebonds, de se dire on est sécurisé, donc en fait on va augmenter nos besoins en eau et notre dépendance à l'eau. Et donc au final, se retrouver avec encore plus d'agriculteurs et d'agricultrices qui se retrouvent dans des situations catastrophiques économiquement le jour où on n'arrive pas à remplir.
C'est un super exemple parce que une solution de bon sens, très souvent mise en avant, c'est de dire optimisons davantage l'irrigation. Et comme ça, bah, la logique voudrait qu'on économise de l'eau. Ça paraît tellement de bon sens que c'est difficile à remettre. Sauf qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet rebond et qu'on observe dans le monde entier depuis des décennies, qui est très bien documenté. On observe que c'est pas parce qu'on est plus performant qu'on utilise moins d'eau en global. Au contraire, comme on est plus performant, il reste de l'eau disponible et donc on développe de la surface irriguée. Et donc c'est pas parce qu'on est plus optimum ou plus optimisateur à la parcelle qu'on utilise moins d'eau en global à l'échelle du territoire. Il faut travailler à la fois sur des combinaisons de solutions en contexte, encore une fois. Et ça, malheureusement, c'est pas vraiment le chemin que prennent les politiques agricoles, où on reste sur le modèle actuel, en fait.
La loi d'urgence agricole a été validée le 16 juillet 2026 en commission mixte paritaire par un petit groupe de 8 députés et sénateurs macronistes de droite et d'extrême droite. Parmi eux, Laurent Duplomb, auteur de la loi rejetée par une pétition de plus de 2 millions de signataires, mais dont le contenu est tout de même adopté aujourd'hui. À ses côtés, Marc Fresneau, ancien ministre de l'Agriculture, proche de la FNSEA et du syndicat des irrigants de France. Cette loi, sans surprise, favorise le stockage de l'eau. Les surfaces irriguées représentent pourtant moins de 7% de la surface agricole. Et sur ces 7 petits pourcents, seuls 26%, soit un quart de la production, est réservée à l'alimentation humaine. La grande majorité est destinée à l'alimentation animale et à l'exportation. on est bien loin d'un usage de l'eau pour l'intérêt général. Et sur ce point, Camille et Lucille sont raccord. Les méga-projets de stockage ou de super tuyaux pour détourner de l'eau à grand renfort d'argent public et d'interminables chantiers ne sont pas une réponse pour s'adapter au changement climatique. Ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que Lucille et Camille se connaissent. Elles se sont rencontrées au SDEBA, un dispositif de concertation tenté par la Chambre d'agriculture et visant à construire un schéma des eaux brutes agricoles sur le territoire. Facile là-bas de se reconnaître, puisqu'elles étaient les deux seules viticultrices à y avoir participé activement. Mais avant cela, et malgré les 10 petits kilomètres de distance qui les séparent, elles ne se connaissaient pas. Preuve certainement de l'isolement sur le territoire pour les vigneronnes. Après avoir visité leur vignoble à chacune, on se dit que ce serait vraiment intéressant de les entendre dialoguer.
Voilà, c'est ça.
Alors, on leur propose de se retrouver pour une soirée chez Camille, au milieu des vignes. Elles ont ramené quelques bouteilles. Nous, on a sorti nos carnets et nos micros. Et tandis qu'elles nous initient à l'art de la dégustation de leur vin, on leur propose d'échanger sur quelques thématiques qui éveillent nos curiosités.
Pour sauver l'agriculture, il faut une planification à toutes les échelles. Alors ça, c'est le papier qu'il fallait tirer avant d'avoir dégusté trois vins. Relation entre agriculteurs, agricultrices du coin et
le vin,
d'ailleurs.
C'est un produit de luxe.
Liberté agronomique.
À toi, Lona.
C'est ça la provoque. C'était le bac de philo ces jours-ci, non?
Moi, je suis d'accord. Hein.
Quelqu'un qui n'est.
Bah oui.
On s'est pas pris de coque de pistache dans la tronche, donc c'est que ça va encore.
Ah ouais, on a c'était armé juste avant. Pile poil. Moi, ce qui me marque, c'est qu'on a des parcours qui sont complètement différents. Mais vraiment, les, enfin, tu vois, oui, les deux caricatures, les deux clichés des agris du coin, voilà, pur cru, et puis les gens qui viennent d'ailleurs avec une autre vision. Moi, ça m'a presque touchée, tu vois, de te dire, mais en fait, t'as des parcours différents, tu partages la même vision, la même analyse, et ça...
Quand on s'est croisés, ça m'avait fait quelque chose, je dois dire.
Ouais, moi aussi.
Ça m'avait fait du bien,
ouais,
voilà.
T'as un côté... On évolue quand même dans un milieu assez masculin, même s'il y a... Enfin, moi, les femmes que je connais, c'est beaucoup des couples, en fait. Et c'est pas elles qui gèrent l'exploitation. Voilà, c'est pas elles qui ont le pouvoir de décision, entre guillemets. Donc, moi, j'ai quand même quelques contacts avec des vigneronnes, mais plus à travers les COP, en fait. Mais oui, c'est vrai que c'est réconfortant. On se sent un peu moins seule, ouais.
Si c'est si compliqué aussi pour nous de faire collectif, c'est parce qu'il y a une crise viticole dans le département qui est pluridécennaire, là, je sais pas comment on dit. Bah, tu vois, ça fait longtemps, quoi. Et
séculaire.
Non, mais tu vois...
Parce qu'il y a eu des années...
Enfin, ça fait... C'est tout un engrenage. Donc, il y a une dynamique plutôt vers la perte que vers la mise en place d'une... Et c'est ça qui est contre lequel on lutte et qui te fait dire qu'on est des cinglés, quoi, je pense. C'est vraiment le truc d'aller vraiment à contre-courant, en disant non, on y croit. Et puis cette dynamique-là, moi, je l'ai. Elle est intérieure et je continue de m'accrocher à elle. Voilà.
Il peut y avoir de la solidarité dans les COP, mais on est quand même sur un milieu où on se regarde beaucoup. C'est vrai, enfin, je ne sais pas si tu l'as ressenti,
dans les
toi, en arrivant d'ailleurs.
Aussi, hein. Non, mais voilà. Ça, c'est pas que les COP.
Alors, est-ce que c'est lié aux marchés qui sont difficiles et que c'est un peu exacerbé aujourd'hui? Il n'y a pas ce côté de si dans la vallée, toi, tu réussis, ben, moi, ça va m'aider à réussir.
Alors que c'est clairement le cas.
Mais c'est sûr que c'est le cas.
Les volumes qu'on produit ici,
mais c'est sûr.
Aucun monde où on est en concurrence. Quoi.
Voilà.
Il y a un truc d'incapacité à reprendre la main, quoi, en tant que collectif.
Moi, ça me dépasse un peu et je me dis que c'est peut-être aussi pour ça que je me suis recentrée sur des projets à mon échelle individuelle, en fait.
Ouais, mais moi, ça me satisfait la plupart du temps. Mais quand ça me satisfait pas, c'est très, très violent, quoi. Parce qu'en fait, quand tu travailles la terre, c'est quand même central, en fait. C'est vraiment, tu te poses la question en permanence de ce que tu es en train de faire par rapport aux autres êtres vivants, quoi. Y compris les humains, y compris tes voisins, y compris tes enfants, enfin...
Moi, je me dis, tu vois, nous, on a des profils quand même assez particuliers.
En fait.
On a fait le choix de travailler la terre et de, voilà, d'avoir ce rapport au territoire. Mais finalement, il y a plein de gens qui n'ont pas eu ce choix.
ils se retrouvent à faire ça parce que la vie a fait que ça s'est passé comme ça. Et parce qu'ils n'ont pas questionné, parce que... Je me dis, mais le mec qui était arbo à Espira, qui a vu tous ses vergers d'abricotiers crever ouais. qu'est-ce que tu peux lui proposer aujourd'hui comme rebond, quoi ? Je me fais l'avocat du diable, hein ? Je sais que ça va pas...
La question qui se pose, c'est à quel moment on trouve, je suis désolée, je reviens systématiquement à cette question-là, de la rentabilité. C'est donc, quel que soit le choix agronomique qu'on fait, il faut qu'en face, on réussisse à en vivre. Moi, je crois que quand tu fais le choix d'être en tourite irrigation, ça veut dire que tu te donnes une échéance à laquelle tu vas, aujourd'hui, dans les PO, à laquelle tu vas pouvoir vivre de ton métier, qui est relativement courte. Quand tu fais le choix d'être en non irrigué, tu te donnes une échéance de survie quand même vachement plus longue, mais par contre... où il faut te battre plus pour valoriser... Certaine. Ah bah c'est sûr, où il faut te battre, c'est certain, pour valoriser ta production. Parce que tu vas produire clairement 6 fois moins. C'est comme ça, quoi. Donc, mais c'est la vie, les gars, en fait. En fait, c'est la vie, on vit dans un monde fini. C'est comme ça, en fait. Va falloir se dessiller, puis agir en conséquence. C'est qu'il y a des responsabilités politiques à ouvrir l'alternative, quoi. À permettre l'alternative. Il faut pour ça avoir un ministère qui mette de l'eau au moulin, quoi, sans mauvais jeu de mots. c'est vrai, des gens qui soient formés à ça, à retenir l'eau, à reméandrer nos parcelles, enfin tout.
Et après, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de vivre de sa production, je crois qu'une des solutions, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup plus, c'est de se diversifier, mais pas uniquement... en termes de filière, mais aussi en termes vivriers et tout, quoi. Et qu'on a complètement perdu cette culture-là, et c'est bien dommage, parce qu'en fait, c'est ça qui nous faisait vivre.
Projetons-nous dans 10 ans. Même en supposant que tous ces aménagements miracles aient été réalisés, y aura-t-il seulement encore de l'eau dans les puits, les forages ? Pourra-t-on toujours irriguer la vigne, les abricots ? Les agroclimatologues annoncent que certaines variétés ne seront bientôt plus adaptées à nos sols ni à nos climats. Pourtant, en dépit de ces projections, ici, tout le monde ne ferme pas boutique. Sur le territoire, celles et ceux qui veulent sortir de la monoculture mais rester dans l'agriculture tentent, main dans la main avec des associations et des agronomes, de nouvelles plantations. Quand on se balade ici, on peut observer des térébintes et des lentisques, qui sont des espèces sauvages de pistachiers. C'est cette présence historique qui a entre autres convaincu Camille de se lancer dans la culture greffée. Il y a 1 an et demi, elle a planté 40 d'arbres. Nous voilà donc dans sa parcelle expérimentale.
Du coup, vous êtes venus quoi, il y a 15 jours ? On a fait un premier suivi avec les préconisations. Que j'ai fait mercredi. Ils arrivent, on va tout faire. J'avais déjà tondu pour entretenir le couvert. Après, entre-temps, j'ai passé l'intercept sur le rang, du coup. Et j'ai attaché. J'ai un peu mieux attaché pour qu'ils essayent de pousser le plus droit possible.
S'il y a un gros coup de vent, même sur un arbre assez âgé.
Myriam, de l'association APARM.
Quoi. Ah ouais. Ouais. C'est ce que nous disaient des ingénieurs agro-algériens.
Avenir de production agricole résiliente méditerranéenne.
Ouais. Quand tu as des feuilles comme ça, super larges, hein, c'est que ton arbre il va hyper bien. Cool. Et un larnaca, c'est des feuilles, effectivement j'en ai vu, mais énormes.
Des assiettes.
Quoi. Ouais, des assiettes. C'est comme ça qu'on les reconnaît en fait, hein, sur la taille des feuilles.
Le vin, comme on a eu l'habitude de faire, ne fonctionne plus. Et c'est là où c'est intéressant de venir compléter avec une autre production.
Kaina, conseillère agronome indépendante.
Si on prend l'exemple de diversification autour de la pistache, c'est ce qui nous réunit là autour de la table. Le faire sans avoir une culture de base qui permet d'assurer une trésorerie, c'est pas possible.
Ok. Donc il n'y a pas imaginé une installation de quelqu'un qui vient et qui s'installe en pistachier complet, quoi.
Non. Enfin, il peut, mais c'est un investisseur.
C'est ça.
Parce que le pistachier, tu vas commencer à en vivre au bout de la 12e année. Donc, voilà, tu as 12 ans où tu vas crever la dalle, quoi, si tu n'as rien d'autre.
Et dans ce cas-là, comment ça fonctionne pour la commercialisation? Enfin, comment vous voyez le truc
Sur la Parme, là, on travaille sur la structuration de la filière. C'est un des avantages du pistachier et de l'arbo, c'est que là, c'est une nouvelle plantation. Donc, ça nous laisse un peu de temps. Et justement, là, on est en train de travailler sur les caves coopératives qui ne fonctionnent plus pour mettre des sites de séchage, des choses comme ça.
Et je me demande un peu comment c'est perçu par les agriculteurs historiques ici d'un coup d'arrivée en disant on va planter du sumac, des pistachiers, alors qu'ici, traditionnellement, on fait du vin. Enfin, du coup, c'est quoi un peu, comment c'est reçu cette proposition? Parce que visiblement, ça vient plutôt d'acteurs périphériques comme d'agricoles et pas.
Ce que j'entends souvent, c'est j'y crois pas.
Ouais,
de toute façon, il n'y a pas de croyance en fait. J'y crois pas.
C'est en gros, on leur vend du rêve, ils vont se casser la gueule quoi. Moi, je leur réponds, mais en fait, si tu essaies pas, ben, tu sauras jamais, tu n'auras jamais la réponse. Alors après, il faut jauger les risques aussi. Moi, j'ai planté 40 arbres, j'aurais pas planté 4000 arbres. Voilà, pas non plus tout miser, faire un tapis sur une idée, un pari, mais il faut y aller quand même, quoi. Moi, je pense que c'est la chance, entre guillemets, de la crise qu'on vit là, qui est quand même, en termes de brutalité, assez inédite. Ben, en fait, c'est que t'es obligé, ça dégage des opportunités, en fait. C'est que si c'était pas si compliqué en termes de production et en termes de commercialisation, tu continues à fonctionner sur tes acquis, voilà, ta monoculture, comme ton père, comme ton grand-père, ou ta mère, ta grand-mère, même si c'est assez rare.
Et au niveau de l'asso, quand j'ai un agriculteur qui m'appelle en me disant « Ouais, moi, je veux planter 5 hectares », enfin, pour l'instant, j'ai fait « Oh là !» Peut-être que 5 hectares, ça fait beaucoup, tu devrais tester sur moi. Tu verras comment ça fonctionne, tu verras si ça ne te prend pas trop de temps,
On va d'abord faire une étude pédoclimatique. On va reprendre l'intégralité des données climatiques sur les 30 dernières années. On va faire des carottages au niveau du sol. Et là, on va voir si toutes les conditions sont réunies pour que le pistachier puisse être planté. Mais sinon, on ne le fait pas, quoi. C'est tellement... Enfin, on peut amener aussi des gens au casse-pipe. Donc, c'est pour ça que là, le pourtour méditerranéen, PO, PACA, Corse, l'Hérault, etc., ça s'y prête bien. Et quand on va au-delà de ces frontières-là, il faut y aller avec des pincettes, quoi.
Comme ici, vous êtes un peu aux avant-postes quand même du réchauffement climatique. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de venir dans cette région. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des agriculteurs, agricultrices dans d'autres régions qui vont peut-être aussi devoir faire face à ces questionnements, mais qui pour l'instant sont encore plus tranquilles, sur comment appréhender et peut-être anticiper la chose?
Justement, le mot, c'est anticiper. C'est dès maintenant réfléchir... à l'avenir de l'agriculture. Et le pistachier, on aurait dû y penser, enfin, on aurait dû y réfléchir depuis 5 ans, 6 ans. On devrait être déjà en production. On s'y prend tard. Hein. On s'y prend parce qu'on est à la gorge. Hein. Et, justement, et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que les agriculteurs, il n'y en a pas tant que ça qui viennent parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers pour investir pour des nouveaux vergers. Enfin, voilà. Et si on s'y prend un peu plus tôt, on est un peu confortable au niveau financier, tout ça et tout, en sachant que de toute manière, on va pas y échapper et se projeter pour pouvoir choisir les bonnes cultures, se faire accompagner.
Un des leviers principaux où on peut intervenir pour justement s'adapter et anticiper le changement climatique, c'est le sol. C'est le sol, clairement, c'est le sol. Le sol, c'est la porte d'entrée pour tout. On voit dans les zones sahéliennes, même plus semi-arides, des sols vraiment arides, on a des pratiques agroécologiques qui permettent de cultiver, certes, sur des petites surfaces, mais avec des choses comme des demi-lunes ou de l'amendement, etc. Et on devrait politiquement accompagner les agriculteurs et les agricultrices à conserver les sols.
Diversifier, c'est la piste qu'a choisie Camille pour s'adapter aux nouvelles rudesses du climat, tout en restant membre de l'une des rares caves coopératives du secteur, toujours sur pied. Héritage du collectif légué par son père et son grand-père, qui avaient contribué à leur fondation. De son côté, Lucille et son compagnon ont fait un autre choix, celui de sortir de ce modèle des coopératives. Ils ont donc racheté l'ancienne cave de leur village à l'abandon pour vinifier eux-mêmes leur vin, selon des pratiques qui ne rentrent pas toujours dans les cases, mais qui ramènent de la vie dans leur sol et dans leur vigne.
Même le carré, il a une acoustique assez géniale. Tu vois, tu te mets à chanter ici,
C'est un peu l'effet cathédrale avec cette hauteur de plafond, c'est assez chouette. Et ça, c'est du coup ces anciennes cuves à vin. Faut faire gaffe qu'on mette les pieds.
Quand même, la première structure qui nous réunit tous, si on le veut bien, et si cette structure le veut bien aussi, c'est nos appellations, nos AOP et nos IGP. Et avec les problèmes de changement climatique qu'on a aujourd'hui, il y a des essais qu'on peut avoir envie de faire, qui vont juste pas rentrer dans le cadre des appellations, donc tu sors des appellations. Or, nos appellations, c'est notre premier outil de collectif. Au départ, on s'est tous mis d'accord, l'histoire c'est ça, c'est des vignerons qui se mettent tous d'accord pour faire des choses d'une manière concertée. Et même ça, c'est en train de disparaître, ce que vraiment on peut regretter. Et on se rend bien compte que les essais de plantation qu'on a aujourd'hui, par exemple là, ils y seront pas, c'est pas possible. Donc, par votre conséquence, on aura des vins qui vont en sortir.
Sur comment on est accrédité, comment on a l'appellation. Donc on est dans la zone géographique, on a un cahier des charges.
Chloé Lebrun, sociologue, étudiant les dynamiques de genre en viticulture.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces cahiers des charges, ils sont impossibles à bouger, quoi. Non, c'est très inertiel, quoi. C'est très lourd. Le changement de cahier des charges et dans ce qu'on a le droit de mettre dans le cahier des charges, c'est un sujet de tension entre les modèles agricoles. Quand on est dans un syndicat d'appellation et qu'on a un cahier des charges, le syndicat, il va y avoir tout le monde. Il va y avoir les vignerons indépendants, la CAFCOP, souvent. Et donc, ça s'embrouille de fou. C'est pas symétrique, hein, comme embrouille. Les CAFCOP ont souvent plus de poids là-dedans. Bref, donc on respecte ce cahier des charges, on est dans l'aire géographique, et puis après, des personnes du syndicat ou de l'appellation qui se réunissent. Souvent, c'est les pontes. Il y a que des hommes et puis des familles un peu historiquement présentes sur le territoire, etc. Donc il va y avoir le domaine machin, la CAFCOP, le président du syndicat. Et on déguste ton vin et on dit oui, il est typique, il respecte la typicité de nos vins ou non. Donc en fait, moi je fais un vin nature par exemple, ou je fais un vin soi-disant considéré comme étant différent. J'ai beau être dans l'aire d'appellation, respecter le cahier des charges et tout, on va me dire ah non, ça il a pas le goût historique qu'on a nous sur notre territoire depuis des années. Et donc en fait, ces évaluations là, ces oraux de vin, mais dès que tu fais différent, tu passes pas. C'est un processus de cooptation fait par toujours les mêmes profils. Il suffit de dire qu'un vin, il est typique ou il est pas typique, et puis hop, il y a tout un mécanisme de rapport après de domination qui se met en place sur qu'est-ce qui est légitime pour être dans l'appellation et qu'est-ce qui l'est pas. Et donc, en fait, là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'évolution et le changement des pratiques, quoi. Et en plus, il y a une volonté militante de pas vouloir, justement, du coup, être là-dedans. Parce qu'en fait, tu te dis, mais en fait, si c'est ça la typicité du vin, c'est au vin produit comme ça, qui respecte pas du tout les valeurs, les pratiques agroécologiques et environnementales que moi, je veux mettre en place. Mais en fait, c'est pour ça qu'on voit plein de paysans et de paysannes et de vignerons qui se disent, moi, l'appellation, j'en suis sortie. Et maintenant, je fais mon vin revendiqué sans appellation.
Alors, tu nous les présentes ?
Ah oui. Alors, voilà. Dos, ça c'est Petit, Groin-Groin et Copine. Je m'y retrouve. Ils se ressemblent, mais en fait, ils ont quand même plein de signes distinctifs. Tu vois, Petit, il est petit. Copine, c'est la plus grosse. Groin-Groin, c'est ça, c'est vraiment, c'est comme sa sœur. Et Dos, elle a deux pampilles sous le menton.
Du coup, est-ce que le fait d'avoir des animaux, ça fait que c'est plus une ferme, enfin un truc de...
Ouais, bah ça, en fait, ça change tout le rapport même au travail, au lieu. Le lieu se transforme d'avoir des animaux. Tu viens plus au champ. C'est un lieu de vie, en fait.
Ouais.
Et ça, ça compte vachement.
Et comment arrivent des cochons chez des viticulteurs, viticultrices?
On s'est dit, mais en fait, toutes ces ronces qu'on pioche, si on les faisait manger par des ânes, tu vois. Donc ça, c'est sûr que ça va devenir des compagnons de travail, les ânes. Pour le moment, c'est simplement des compagnons de vie, quoi. On les a, ils pâturent, ce qui est déjà énorme, en fait, de passer d'un milieu non pâturé à un milieu pâturé, c'est... Voilà, tu changes de paradigme complètement. Et surtout, on s'est emballé, en fait. Agronomiquement, on s'est dit, non, mais attends... il nous faut plus, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Les ânes, il faut absolument les sortir dès que c'est la saison en vert, parce que sinon, ils nous mangent les feuilles, les sarments, enfin, ils se régalent, quoi. Donc, ça veut dire les mettre au pré pendant la saison en vert et qu'ils ne soient aux vignes que de la fin des vendanges au début des bourgeons. Et on avait entendu parler de cochons qui allaient bien dans les vignes, qui sont uniquement végétariens, qui ne peuvent pas lever plus que ça la tête, donc on craint pas trop pour les grappes qui fassent des dégâts, et c'est trop génial. En plus, il y a cette présence du cochon dont on entend tous parler, qu'on a un peu du mal à y croire tant qu'on l'a pas vécu soi-même, de se dire que c'est plus ou moins comme un chien, tu vois. Il y a très vite un lien qui se fait avec les ânes, c'est très clair, mais avec les cochons aussi. Donc, non, mais c'est incroyable. Mais l'intelligence des cochons, ils font ce qu'ils veulent. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils désherbent les vignes, quoi, en fait. Hein.
Ah, salaud.
Il a fait un jet de gros.
Ça pourrait être un troupeau de cochons, mais c'est vrai, c'est un troupeau de cochons itinérant. Bon, là, c'est un tout petit troupeau, mais nous, ils sont juste pas assez nombreux pour le moment. C'est notre première année d'essai. On a dans l'idée d'en avoir beaucoup plus pour que ça soit, parce qu'on voit que ça fonctionne très bien. Donc, je sais pas si c'est du pastoralisme ou pas du pastoralisme, mais en tout cas, faire pâturer des animaux dans nos vignes, que ce soit des ânes à la saison hivernale, automnale hivernale, ou des cochons toute l'année. Et on a aussi pour projet d'essayer de faire un peu de pâturage tournant avec des poules pour ça. Mais voilà, c'est des solutions de pâturage plus que de pastoralisme. Ouais. Je crois que c'est une des clés, en fait, de lutte contre les incendies, même contre la sécheresse, en fait. Et ça permet vraiment de préserver des paysages. Pas que des paysages, en fait. Un habitat, ça permet de préserver notre habitat à tout ce qui est l'air de vie autour du village, quoi. À l'échelle, par exemple, du territoire des corbières fenouillèdes, il faudrait beaucoup plus d'animaux, de broutants, et pour que ça soit significatif.
Tandis qu'une partie de la gauche et de l'écologie politique remettent à juste titre en question notre rapport aux animaux, et donc à l'élevage, nous constatons, à l'issue de nombreux tournages, que toutes les personnes rencontrées qui veulent sortir de la monoculture se questionnent sur la polyculture-élevage et le retour des animaux dans leurs espaces. Au-delà de ramener de la matière organique, donc de la vie et de la fertilité dans les sols, il semble que les animaux peuvent jouer un rôle central face au réchauffement climatique. Et pas forcément pour produire de la viande ou du fromage, mais pour entretenir les paysages et lutter contre les incendies. Prendre à bras-le-corps la question du réchauffement climatique, c'est remettre de l'agronomie au centre et creuser ses contradictions. Imaginer de nouvelles relations avec les vivants qui nous entourent. Nous voilà à un carrefour difficile. Tous les écosystèmes sont affectés. Et la légèreté de nos dirigeants face à ces questions fait peser des menaces très lourdes sur notre survie collective. Mais tentons de nous réjouir. Cultivons l'espoir, nous aussi. Saisissons toutes les perches possibles pour faire preuve de créativité, pour nous renouveler et faire vivre cette nécessaire liberté agronomique à rebours d'une agriculture empêtrée dans des traditions soi-disant immuables. Parce que l'après, c'est maintenant.
Merci à Camille et à Lucille, les vigneronnes du futur. Merci aussi à Coralie, du syndicat du bassin versant de la Gly, à Sylvain, de l'INRAE, et à Chloé, du laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société, pour leur apport sur les contextes locaux et nationaux autour de l'eau et les dynamiques de pouvoir liées au genre dans le milieu du vin. Merci bien sûr à Thibault Langenais pour les créations musicales originales de l'épisode. Et pour finir, un grand, grand, grand merci à notre chère amie Audrey, qui a été à nos côtés dans tous les coulisses de ce tournage. Vous trouverez, comme toujours, sur le site de Blast, à la rubrique podcast Manuel des Terres, un bon paquet de ressources pour compléter votre écoute et poursuivre vos réflexions. Nous, on vous donne rendez-vous dans un mois pour finir cette deuxième saison.
Et comme les politiques gouvernementales et certains syndicats nous font tant de mal, on ira à la rencontre d'élus de la Confédération paysanne et d'une députée LFI qui porte haut et fort d'autres visions de l'agriculture. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire à manuel.deterre@gmail.com et sur notre page Insta. Allez, salut!
Désolé, mais ils ont creusé un crasse trou noir infini et infini à des millions mois dessous. Je reste assis seul à genoux en répétant ça va, ça va, ça va, ça va. Jusqu'à ce qu'arrive la bande, les sons des terres.